Les voies de service, mercredi 3 janvier 2018. Bonjour, bonne année tout le monde. Bonne année.
Vous-même.
Bonne année, Jean-Sébastien.
Merci.
Je nous souhaite, et je sais que c'est quétaine, mais beaucoup de santé. À moi personnellement, parce que je vais essayer de ne pas vous abandonner aussi souvent cette année. Je vous souhaite beaucoup de santé à vous, Daniel.
Merci.
Pour que vous ne m'abandonniez pas non plus. Et la même chose à Jean-Sébastien. Parce que quand on a la santé, hein, tout le reste après ça s'achète.
Je vais essayer d'avoir une bonne santé tous les mercredis matin.
Bon, il y a certains pays où la santé s'achète aussi, mais ça, c'est un sujet pour une autre émission. Alors, aujourd'hui, de quoi vous allez nous parler, Daniel?
Eh bien, j'ai plusieurs petits sujets, mais disons qu'il y en a deux qui m'ont intéressé particulièrement. Je vais vous parler de Strawberry Field, un nom qui vous dit probablement quelque chose.
Une belle occasion d'entendre une chanson des Beatles, peut-être?
Probablement. Et je vais vous parler des Doors aussi. Donc, on n'a pas entendu parler
ça aussi, c'est
bon
toujours agréable à entendre.
Oui. Et quelques autres petits articles aussi.
Excellent. Passage. De mon côté, je vais faire le tour de plusieurs communautés autochtones, les Innus de la Basse-Côte-Nord, les Innus anciennement de Davis Inlet, mais aujourd'hui de... je l'avais devant moi, enfin, qui ont déménagé dans une autre communauté, dont je... Natouashish, et des Pieds-Noirs de l'Alberta. On fait le tour du Canada, des communautés autochtones. Alors, je vous emmène tout de suite sur la Basse-Côte-Nord avec cet article que j'ai pris dans Le Devoir. Bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, alors j'avais accumulé plusieurs, quelques matériels. Le 15 décembre 2017, c'est signé Sandrine Gagné à Coulon. Et donc, le titre de cet article était « Dépourvu d'école secondaire, la Basse-Côte-Nord se vide de ses enfants ». Pour beaucoup de jeunes des régions, le début du cégep est l'occasion de s'émanciper en quittant la résidence familiale pour s'installer en ville. Des adolescents autochtones de la Basse-Côte-Nord font face à un choix plus prématuré, faire le saut au début du secondaire ou rester dans leur communauté et rétrécir leurs chances d'accéder à l'emploi. Jeanne Wapukun-Lépine a 17 ans et elle termine sa première année de cégep en sciences humaines. Elle est métisse. Son père est blanc et sa mère Innu. Elle a grandi à Pakwashipi, une réserve de 300 âmes recroquevillée dans un coin du golfe du Saint-Laurent au pays des vastes espaces vierges et de la pêche. La petite communauté n'est desservie par aucune route. La 138 s'est arrêtée quelques 330 km en amont. Il faut donc s'y rendre par bateau ou bien en motoneige l'hiver. Lorsque Jeanne a terminé sa première année du secondaire, seulement 2 élèves de sa promotion sur 10 ont été admises en deuxième secondaire. Ça fait une toute petite classe, ça, 2 élèves. Alors, ce n'était pas suffisant pour former une classe et mobiliser des professeurs, même pour les critères de l'école Pakwashipu, hein, parce que souvent, en région éloignée, on a des critères un peu plus lousses, on va dire, pour le nombre d'enfants par classe. Jeanne a donc dû choisir entre attendre ses 16 ans pour poursuivre sa scolarité dans un centre d'éducation aux adultes ou bien déménager. Cette situation n'est pas exceptionnelle dans la région. Près de la moitié des 10 écoles de la Basse-Côte-Nord arrêtent de dispenser des cours en deuxième ou troisième secondaire. Jeanne avait de la chance, son père habitait à Québec, même si elle ne le connaissait pas très bien, ayant toujours demeuré avec sa mère. J'ai beaucoup d'amis qui ont quitté leurs parents pour aller à l'école. Je pense que c'est plus difficile pour eux. Moi, j'avais mon père. J'avais juste 12 ans, je ne voulais pas aller à la Romaine, l'autre communauté Innu de la Basse-Côte-Nord où elle aurait pu suivre des cours jusqu'en cinquième secondaire, ça c'est une note de la rédaction, dans une communauté où je ne connaissais personne. Seule autochtone, dans son école de Québec, elle a dû affronter certains stéréotypes, mais le temps consacré à l'étude et au devoir a été son plus gros défi d'adaptation. Pour bien préparer ses élèves au programme québécois, l'école Pakwashipu est prête à y mettre le temps nécessaire. On veut qu'ils arrivent prêts, pas qu'ils soient rétrogradés en deuxième secondaire en arrivant dans leur nouvelle école, explique le directeur adjoint Gilles Sauvageau, qui travaille sur la Basse-Côte-Nord depuis 16 ans. Avec sa barbiche et ses lunettes rectangulaires, le geek assumé cumule son poste d'administration avec ceux de prof d'anglais et de prof d'éthique. Si elle respecte les normes provinciales et fédérales, hein, puisque dans les réserves, la compétence est partagée entre le fédéral et le provincial, l'école autorise cependant des cheminements particuliers. Il arrive souvent que des élèves fassent leur première et deuxième secondaire, année de secondaire en 3 ans. Certains élèves ont pas mal de misère avec le français. C'est vraiment la deuxième langue à Pakwashipi. Ici, l'innu est la langue de tous les jours et les élèves du primaire reçoivent 2 heures de cours d'innu par semaine. C'est l'avantage de l'isolement de Pakwashipi par rapport à d'autres communautés du Québec, observe Gilles Sauvageau. Hein, puisqu'on en a souvent parlé ici à quel point dans beaucoup de communautés, les langues autochtones sont en train de se perdre. Bon, mais s'il y a des désavantages à être isolé, l'avantage, c'est qu'on peut préserver plus facilement sa langue. Magali Mestena-Péo, elle, a passé son enfance entre Pakwashipi et cette île avant de s'installer définitivement dans cette dernière ville en 4e année du secondaire. À Pakwa, c'est pas très difficile, l'école. Ma mère trouvait que c'était pas un bon niveau. Magali habite aujourd'hui avec sa tante. Elle me parle en innu et je lui réponds en français, avoue-t-elle avec un certain regret. La jeune
fille... Au moins, elle comprend encore l'innu.
Mais ça, c'est... Oui, ça, c'est bien. Elle a éprouvé des difficultés lorsqu'elle a changé d'école. J'ai redoublé ma 4e année, mais ça a été la seule. Je me suis vite adaptée. Elle est maintenant en 5e secondaire à l'école Manikanetish à Ouachat-Malioténam, une réserve voisine de cette île. Les jeunes des communautés éloignées ont parfois un retard scolaire, mais le développement de l'innu est plus fort, constate Ghislain Caron, directeur de l'école. C'est ce qu'on disait aussi pour l'autre école de tout à l'heure. L'école Manikanetish compte chaque année 7 ou 8 élèves qui proviennent de villages innu du Nord. M. Caron explique que ces derniers vivent un stress de devoir quitter leur famille très jeune, à 14, 15 ou 16 ans. À Pakwashipi aussi, Gilles Sauvageau a été témoin de plusieurs exils ratés. De 3 jeunes partis l'année dernière, 2 sont revenus. Ils étaient partis à 16 ans, mais leurs proches leur manquaient trop.
C'est les proches, puis c'est le changement de culture aussi.
Oui, c'est ça, c'est plein de choses.
Le mode de vie très différent.
On doit s'adapter, c'est ça.
Changer, apprendre la langue aussi. La langue française, c'est assez compliqué.
Oh là là. Oui. Donc, la famille est une valeur centrale de la culture innu aussi. À cause des moyens de transport limités, ce n'est pas évident pour les jeunes exilés de rendre visite à leur famille souvent et réciproquement. Hein, parce que pour gagner Pakwashipi, à partir de cette île, par exemple, il faut naviguer 2 jours et demi sur le traversier ravitailleur Bella de Gagné. Alors, 2 jours et demi, aller-retour,
ça gruge
ça
une fin de semaine.
Ça fait une longue fin de semaine, on va dire. Heureusement, la plupart des adolescents emménagent chez des parents quand ce n'est pas la famille au complet qui déménage. À respectivement 18 et 16 ans, les sœurs Alicia et Alanis Mollen sont toutes deux finissantes à Manikanetish. Leurs parents ont pris la décision de quitter la Romaine pour suivre leur aîné à cette île. En première secondaire, Alicia avait voulu changer d'école. Elle avait été victime d'intimidation durant tout son primaire et s'échapper de sa communauté lui semblait le seul moyen que ça cesse. Il a fallu beaucoup de temps à mes parents pour décider qui conserverait son travail à la Romaine et subviendrait aux besoins de la famille et qui viendrait avec moi. Mon père et ma sœur ont déménagé avec moi l'année suivante. Maintenant, notre mère habite avec nous, précise sa sœur. Ce sont de gros sacrifices pour les parents. Le départ de famille complète est un coup dur pour des communautés déjà exsangues. La conservation de la culture innu, bien vivante dans les communautés basses côtières, en est aussi affectée. À la Romaine, la culture, c'est 7 jours sur 7, illustre Alanis Mollen. À cette île, c'est, mettons, 3 jours sur 7. Lorsqu'on leur parle de leur avenir, seule Jeanne semble envisager de revenir à Pakwashipi. « J'ai envie de redonner à ma communauté. Je veux y aller après mes études. Je voudrais commencer à travailler là-bas. Mais je ne pense pas y passer toute ma vie non plus. » Ces 3 comparses ont plutôt pris goût à la vie citadine. La région se vide et leurs perspectives d'avenir paraissent plus favorables là où on peut prendre la route. Vous, Daniel.
Strawberry Fields, ce nom vous dit quelque chose?
Forever?
Oui, oui, une chanson des Beatles. Un article que j'ai pris dans Rolling Stone magazine qui s'intitule « Strawberry Fields renaît de ses cendres ». Si Strawberry Fields Forever est l'une des chansons les plus connues des Beatles, les bonnes œuvres qui l'ont inspiré le sont beaucoup moins. pour l'instant.
Les bonnes œuvres.
Les bonnes œuvres, mmh. Et oui, parce que la plupart du monde ne savent pas c'est quoi ce Strawberry Fields.
Honnêtement, j'avoue.
C'est un peu pour ça aussi que j'avais décidé de prendre cet article.
Non, c'est vraiment intéressant, on va vraiment se coucher moins ouais,
ce
soir.
La plupart du monde ne se souviennent que de « Let me take you down, cause I'm going to Strawberry Fields ». Mais on ne sait pas c'est où.
C'est où ça?
On
ne
sait pas c'est quoi.
C'est où que ça en allait dans
c'est juste
Strawberry
intéressant
Fields.
À écouter. Oui,
c'est vrai.
Si le célèbre portail Carmin a depuis longtemps été remisé à l'abri des fans des Beatles, il n'en demeure pas moins une légende, immortalisée par John Lennon en 1967. Quand même, ça fait 50 ans et plus,
wow.
Déjà. L'orphelinat le plus célèbre de l'histoire de la musique s'apprête à réouvrir ses portes. Donc, c'était un orphelinat.
Ah!
Situé à quelques blocs de la maison où a grandi le légendaire musicien, cette gigantesque demeure victorienne, cédée à l'Armée du Salut au début du siècle dernier, a accueilli la jeunesse désœuvrée de Liverpool du milieu des années 30 au début des années 2000. Ça fait quand même pas si longtemps que c'est fermé. John Lennon s'y réfugiait régulièrement lorsque ses relations avec sa tante Mimi se tendaient. Il faut se rappeler que... John Lennon, sa mère s'était pas tellement occupée de lui, puis elle est décédée quand même assez jeune, et sa tante Mimi qui s'est occupée de lui, puis
ouais.
Je pense qu'elle était assez, mettons, stricte, ce serait un mot poli pour décrire sa personnalité. 50 ans après, il est grand temps de lui donner une seconde jeunesse, et ce, sous l'égide d'une marraine de choix, Lady Judy Martin, veuve du regretté producteur des Beatles, George Martin. Souvent nommé le cinquième Beatles.
Oui, effectivement.
C'est lui qui faisait tous les arrangements en studio.
C'était le génie derrière.
Oui, on peut dire ça. Mon époux considérait Strawberry Fields Forever comme l'un des meilleurs enregistrements des Beatles, avec son texte réminiscent des bons moments que John Lennon avait partagés avec ses amis dans sa jeunesse, confiait-elle à l'Armée du Salut. Et ça, juste une petite parenthèse ici. J'ai vu à un moment donné dans un documentaire où George Martin parlait qu'il avait rencontré John Lennon plusieurs années après Strawberry Fields, à l'époque où les Beatles étaient déjà séparés. Puis je me demande même si c'était pas près des années 80, juste avant qu'il présente son nouvel album.
Mm-hmm.
Et George Martin avait demandé à John Lennon s'il aimerait refaire certaines des chansons des Beatles. Et John Lennon lui aurait répondu « Je voudrais toutes les refaire ». C'est comme dans son mood où il était à ce moment-là, il n'aimait aucun des arrangements qu'il
avait.
Il rejetait à peu près tout. Il voulait tout recommencer, les arrangements. Puis là, George Martin, il aurait dit « pas Strawberry Fields au moins ». Là, John Lennon aurait dit « surtout Strawberry Fields ». Et ça avait piqué au vif George Martin qui trouvait, lui, qui avait mis beaucoup de temps pour faire des arrangements. C'était assez particulier aussi comme arrangements musicaux. Donc, bref, George Martin était très déçu de la réaction de Lennon à ce sujet-là.
Mais donc, ça, c'était dans sa crise d'adolescence un petit
ouais,
peu.
Ouais, ouais, ouais. Il était rendu à 40 ans. Là.
C'est
donc,
ça, voilà.
sa crise d'ado. D'ailleurs, il est décédé à 40 ans. Je pense que c'était pas longtemps avant
c'est
ça.
C'est triste, par exemple.
Oui. L'association caritative britannique compte faire de ce terrain, aujourd'hui à l'abandon, un hub culturel, éducatif et religieux à destination d'une communauté que l'Armée du Salut souhaite inspirer autant que le jeune Lennon l'a été. Non seulement l'association a pour projet d'ouvrir un musée dédié à l'histoire de Strawberry Field et ses liens avec les Beatles, un café responsable et un jardin à l'anglaise de toute beauté, mais elle prévoit également de développer les infrastructures nécessaires pour former puis employer des jeunes en difficulté et ou en situation... Ma tablette vient de... Je vais passer d'un zoom de 100% à 10% environ.
Ouais, mettez vos lunettes.
Ouais, ouais, le temps que je revienne... OK, donc pour former puis employer des jeunes en difficulté et ou en situation de handicap. Près d'un million de jeunes britanniques en difficulté sont aujourd'hui sans emploi. Un tiers d'entre eux n'ont plus de contact avec leur famille, précise le président de la division nord-est de l'Armée du Salut, Major Drew McComb, dans un récent communiqué. Enfin, ouvrir les portes de Strawberry Fields et permettre au public d'en apprendre davantage sur ce lieu et marcher dans les pas de John Lennon est une chose formidable, de dire Lady Judy Martin. OBE, son titre c'est OBE, je ne sais pas c'est quoi exactement.
Non.
Je pense que c'est Order of the British Empire, parce que les Beatles et George Martin avaient été nommés par la reine MBE, Member of the British Empire.
Ah,
mais
okay.
OBE, je pense,
bon.
En tout cas.
Vous en savez plus que moi.
Ouais, mais celui-là, je fasse une recherche. Donc, le mois dernier, l'association recevait une excellente nouvelle. La ville de Liverpool leur donnait l'autorisation d'entamer les travaux nécessaires à la réouverture de Strawberry Field. afin que le doux rêve de John Lennon renaisse, et non pas de ses cendres, mais des gravats qui recouvriront bientôt cette large parcelle de terre, l'association Strawberry Field Liverpool a besoin de l'aide de tous les fans des Beatles et autres bonnes volontés qui entendront parler de cet ambitieux projet. Pour faire un don, vous pouvez cliquer ici. Je ne cliquerai pas là, mais si vous allez voir l'article dans Rolling Stone, il y a un lien. Oui. Si vous préférez vous offrir un T-shirt ou un sac à l'effigie du fameux portail et répandre la bonne parole, il y a un autre lien aussi sur l'article dans Rolling Stone en ligne, bien entendu. Je ne parle pas de la version papier.
Oui, ça, c'est plus difficile.
Voilà pour Strawberry Field. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur ces...
Merci, Daniel. Il faut bien revenir à la réalité.
Oui, mais juste une petite chose encore à dire là-dessus,
oui,
parce que je ne me souviens pas, je pense que je l'avais déjà mentionné, mais Strawberry Fields Forever avait été publié en 45 tours, et c'était la première fois dans l'histoire du 45 tours qu'il y avait un double côté A.
Ah.
Parce qu'il y a toujours un côté A et un côté B,
c'était
normalement
même,
comme
c'était
un pile ou un
face. Côtés.
Non, c'était que Lennon McCartney commençait...
Il fallait tourner pour pouvoir écouter la suite de la chanson.
Non, c'est que l'autre côté, c'était Penny Lane. Mais Penny Lane avait été écrite par Paul McCartney, Strawberry Fields par John Lennon. Et c'était un petit peu la guéguerre à savoir qui
personne
a
voulait être B.
côté A, côté B. Donc, il y avait deux côtés A.
J'avais oublié ça.
Donc, ils ont été les premiers, probablement les seuls à faire un double face A.
C'est très drôle.
Ouais. Voilà.
Oui, c'était 2A. Je vous amène complètement ailleurs. c'est un peu évadé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90, il y avait des jeunes de la communauté Innu de Davis Inlet qui s'évadaient, mais eux, plutôt en respirant de l'essence. Ça avait vraiment fait...
Oui, ça, c'est moins...
Ça avait fait l'actualité de façon triste. Alors, c'est un article que j'ai pris sur le site d'Ici Radio-Canada. Ici Radio-Canada Nouvelle, voilà. Et... Je propose...
Il voulait vous le chercher, hein, c'est ça?
Non, moi, j'ai le même problème que vous, là, j'ai appuyé au mauvais endroit. Puis,
La technologie.
Mais non, je voulais voir si l'article était signé. Ouais. Je me souvenais bien qu'il ne l'était pas, mais effectivement, j'avais...
En passant, ça me fait juste penser, que c'était quand même bien dans le temps qu'on avait la presse en papier. Même si on pesait ça avec notre doigt, c'est assez rare que l'image parte.
Il fallait mettre les lunettes pour la lire, par exemple.
Une loupe.
Rendu à notre âge. Oui, c'est ça. Alors, le 14 décembre 2002 est un jour... Ah oui, j'ai oublié de vous donner le titre de l'article, si jamais vous voulez avoir la version non pas papier, mais écrite. « Les grandes attentes du déménagement de Davis Inlet ». Et c'est un article qui date du 13 décembre 2017. Mais ça dit que c'est dans la section « Archives », et moi, j'en ai eu connaissance en décembre 2017, mais j'ai l'impression que c'est un article qui avait déjà été écrit. Mais c'est pas grave. C'était pour souligner le 14 décembre 2002, donc qui est un jour empreint d'espoir pour la communauté Innu de Davis Inlet. Un grand déménagement est orchestré vers le village tout neuf de Natwashish, une première étape dans un long processus de guérison. Dans les années 90, ces images bouleversantes de jeunes autochtones inhalant des vapeurs d'essence, nous ont fait découvrir la misère sociale de Davis Inlet. Les conditions de vie dans ce village Innu sont également dignes du tiers-monde. Des maisons insalubres, sans eau courante et mal isolées, sont disséminées sur un terrain sans route, jonché de détritus. Mais les problèmes des Innu Mouchoua du Labrador commencent en fait dès 1967. Ils sont alors installés à Davis Inlet par le gouvernement canadien. Plus les années passent, plus les habitants réclament un retour à la terre ferme. Parce que Davis Inlet, je pense que c'est comme une presqu'île. Alors, ils ne sont pas tout à fait sur la terre ferme. La médiatisation de cette situation choque l'opinion publique. Puis, les gouvernements se mobilisent. Après de longues négociations, il est entendu que le village de Davis Inlet soit fermé à tout jamais et que la communauté déménage dans un nouvel emplacement qu'elle aura déterminé. Les Innu choisissent de repartir à 9-15 km plus loin, sur le continent, à Little Sangopound ou Natwashish. Le 14 décembre 2002, c'est à Motoneige que les familles quittent Davis Inlet, tournant le dos à 35 ans de misère et d'insalubrité, comme le montrait un reportage de Stéphane Thériault au Téléjournal, dont vous retrouverez un lien sur le site de l'article, si jamais vous voulez aller voir. Père, mère, enfants et grands-parents s'entassent avec les quelques biens récupérés des taudis sans eau courante et sans évacuation d'aisance. Ils espèrent commencer une vie meilleure avec de la plomberie. De la plomberie, hein,
c'est quand même,
ça me semble la base. Hein, on était juste en 2002, mais c'était déjà pas mal la base. Des appareils électroménagers et des robinets qui ne sont plus que décoratifs dans leur vie actuelle. L'entente entre les deux paliers de gouvernement et les Innu précisait que ces derniers devaient participer activement à la construction de la nouvelle communauté, ayant ainsi accès à la formation, à de la formation et des emplois. La construction du village devait être terminée à l'automne 2001, mais elle a pris un net retard. Hein, c'est très rare, les retards dans la construction, mais ça arrive...
Ça peut arriver à l'occasion.
À l'occasion. Si le déplacement des Innu commence en décembre 2002, toutes les maisons ne sont pas prêtes à Natwashish. Environ 150 membres de la communauté doivent rester en arrière. N'empêche, beaucoup d'espoir est fondé dans ce village créé de toutes pièces, car il y a beaucoup plus que des problèmes de logement à Davis Inlet. Outre le déménagement, la stratégie gouvernementale comprend d'ailleurs l'établissement de programmes sociaux afin d'aider les Innu à s'adapter à leur nouvelle collectivité et un service de traitement et de post-cure en région rurale. Mais ces promesses seront-elles tenues? Le 22 janvier 2007, le journaliste Mathieu Rompré se rend dans le village de Natwashish pour le Téléjournal. 5 ans plus tard, donc, il dresse le bilan social de ce déménagement d'envergure. L'amélioration des conditions de vie, bien que notable, n'a pas résolu les problèmes sociaux de la communauté. Suicide, alcoolisme, inhalation d'essence, violence, inceste. Les vieux démons ont aussi fait le trajet depuis Davis Inlet. C'était naïf de penser qu'en déménageant dans un village flambant neuf, nos vies changeraient complètement et que tous nos problèmes disparaîtraient. Ce n'était pas réaliste. C'est ce que nous dit une travailleuse sociale de la communauté Innu de Natwashish. Les Innu demandent au gouvernement fédéral de financer un service de désintoxication pour les familles afin de ne pas avoir à envoyer les enfants dans des centres hors de leur communauté. Ils attendent toujours. Les pensionnats autochtones sur Google Earth. L'option Voyager de Google Earth utilise plus de 100 marqueurs pour montrer sur une carte les emplacements des pensionnats autochtones, en plus de raconter des récits de survivants des pensionnats. Voyager est une collection d'articles interactifs basés sur des cartes géographiques et écrits par des partenaires de Google Earth. Le projet des pensionnats, lancé lundi, et ça c'était donc lundi le 11 décembre, est un partenariat entre le Centre national pour la vérité et la réconciliation, le NCTR, et l'organisme Canadian Geographic Education. On peut voir les pensionnats, on peut voir où ils se trouvent, et ça aide à les rendre encore plus concrets. Ce n'est pas un passé lointain, souligne Ray Moran, directeur du NCTR. Les pensionnats du Canada, conçus à l'origine pour assimiler les enfants autochtones, se sont ouverts dans les années 1930. Le dernier pensionnat n'a fermé ses portes qu'en 1996. Au Québec, des pensionnats à Latuc, à Malioténam et à Amos, ville où j'ai grandi, ont cessé leurs activités dans les années 1970. Plus de 150 000 enfants autochtones ont été arrachés à leurs familles et placés dans ces établissements, pour la plupart sous l'égide de différentes communautés religieuses. Les histoires et les cartes de Voyager sont accessibles à tous les Canadiens, mais cible particulièrement les élèves des écoles primaires et secondaires. Selon John Thompson, professeur de géographie et membre du Canadian Geographic Education, le projet n'est qu'un pas de plus vers la réconciliation. Ce sont de petites étapes, un peu comme cette carte, un peu comme la reconnaissance des terres, a-t-il dit. Et c'est ce qui met fin à cette première partie de Voix de service. On se retrouve tous après une pause de quelques instants.
Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah.
The Doors avec People Are Strange, extrait de l'album Strange Days.
Quel groupe quand même. Hein? On entend encore parler un peu aujourd'hui. Et d'ailleurs, quel hasard. Je viens.
Oui, comme par hasard, vous avez un article
oui,
à partager avec nous.
Je viens de mettre la main sur un article dans Rolling Stone Magazine qui s'intitule « The Doors, leur ultime live britannique, enfin retransmis ». Imaginez-vous, ça fait quand même quelques années.
Quand
là,
même. Jim Morrison, ça n'avait toujours pas été fait.
Ouais, Jim Morrison est décédé en, je pense que c'est en 70 ou 71. Je ne me souviens pas exactement, mais c'est dans ces années-là. Donc, la technologie actuelle faisant des miracles, des archives filmées du dernier concert britannique des Doors sur l'île de Wight en 1970 ont pu être compilées. Elles sortiront prochainement en DVD, CD et Blu-ray. Si Woodstock continue de faire rêver 48 ans plus tard, le festival mythique de l'île de Wight n'est pas en reste. Un an après les joyeuses célébrations hippies du Summer of Love, l'île de Wight accueille entre 600 000 et 700 000 personnes pour une communion légendaire autour du rock. C'est quand même beaucoup de monde.
Beaucoup.
C'est toute une foule.
C'est une petite gang.
Entré au livre Guinness des records pour son affluence, le festival a également impressionné par son affiche. Aux côtés de Who, de Ten Years After et autres Lake and Palmer, des artistes comme Leonard Cohen et Joan Baez ont occupé le devant de la scène.
Quand même.
En passant, Lake and Palmer, je vais en parler à un moment donné, c'est un groupe qu'on a tendance à oublier, mais je pense qu'ils ont commencé là, au Festival de Wight, en 70.
Ah,
ils sont
ouais.
devenus très, très gros, très big après. Là. Même s'il y a un concert que le monde et plus tard l'histoire du rock a retenu, c'est celui des Doors. Dernier concert de Jim Morrison au Royaume-Uni. Le chanteur décède quelques mois plus tard, en juillet 1971. C'est ce que je cherchais tantôt, finalement.
Voilà, on sait maintenant.
Le show est entièrement filmé. Comme souvent pour ce genre d'archives, les enregistrements sont restés introuvables pendant plusieurs décennies. On se demande pourquoi.
Hein?
Qu'est-ce qu'il faisait dans ce temps-là? Il filmait un truc, puis après ça, il ne savait pas ouais, qu'est-ce qu'il avait fait avec.
Il mettait ça dans une poche, puis là, ben, c'est juste qu'il fallait qu'il remette le même veston. Pour...
il ne prenait pas de notes, je ne sais pas. Non. C'est quelqu'un donné, qui visionne ça et dit « Man, c'est les Doors! »
C'est ce qu'on cherchait.
En tout cas. Et ce, jusqu'à l'année dernière. Retrouvé dans des vieux cartons, le film du concert est récupéré par des professionnels de l'image. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour restaurer entièrement les roches. C'est écrit en français, hein, roche.
Donc,
en
il faudrait
français,
dire roche.
Oui, mais je ne sais pas en français, les roches, ouais, c'est les...
Jean-Sébastien va nous trouver ça.
Oui, mais c'est en tout cas, c'est la matrice, je
ben,
sais pas.
C'est le matériel brut, mais je ne sais pas comment...
Afin de proposer la meilleure qualité. Le montage du film est également retravaillé. J'espère qu'ils vont retravailler le son un peu aussi, parce que des fois, les vieux enregistrements live... Bon.
Le remasteriser.
Remasteriser, oui, effectivement. Rematrissage.
Ou rematrisser,
en français, je pense.
Oui, c'est vrai, on avait déjà appris cette
année. Oui, c'est Jean-Sébastien qui nous avait ramené à l'ordre là-dessus. Après plusieurs mois de travail acharné sur ces archives légendaires, le film va enfin sortir en CD, DVD et Blu-ray. Les pistes sont agrémentées d'un documentaire intitulé « This is the End ». En passant, « This is the End », c'était le titre d'une chanson des Doors.
La chanson, oui.
Celui-ci permet de découvrir les témoignages de Robbie Krieger, le guitariste, et John Densmore, les deux seuls membres encore vivants des Doors. En passant, le premier hit des Doors, vous souvenez-vous, c'était quoi?
Ben, je me
première
souviens
chanson
pas
qui a vraiment
quand il est
marché
sorti
beaucoup.
Parce que je n'étais pas née, mais ben, en fait, j'étais peut-être née. Là,
bonne excuse. C'était « Light My Fire » qu'on entend encore
ben,
souvent
c'est
aujourd'hui.
C'est la chanson qu'on entend le plus.
Effectivement. Et c'était Robbie Krieger qui l'avait écrite.
Ah.
Tout le monde pensait que c'était Jim,
c'était
Morrison.
Pas Jim Morrison.
Je pense qu'il a ajouté une phrase dans la chanson. Mais c'est Robbie Krieger, le guitariste, qui avait écrit « Paroles et musique » de la chanson la plus connue, probablement,
c'est
des Doors.
La plus connue.
Le manager du groupe a également été interviewé. Le DVD, CD et Blu-ray sortiront le 23 février prochain. C'est donc en 2018.
Mmh. On écrit ça à notre
voilà,
agenda.
Voilà, prendra ça en note. Une bonne suggestion de cadeau.
Merci,
pour...
Daniel. Et puisqu'on parlait d'objets sacrés, hein, l'objet, le film qu'on avait cherché pendant si longtemps, moi, je vous parle d'objets sacrés de communautés autochtones. Bon, j'aurais peut-être pas comparé les deux. Mais le rapatriement, dis-je, d'objets sacrés ranime les communautés autochtones. C'est le titre de cet article de la presse canadienne, mais que j'ai trouvé sur le site de la presse, publié le 24 décembre 2017. Ryan Heavyhand aide les Premières Nations à récupérer des objets sacrés exposés dans des musées depuis des années. Mais il n'avait jamais encore reçu d'appel comme celui d'un certain musée de l'Oregon. L'institution possédait un ballot de castor, Beaver Bundle en anglais, une installation cérémonielle reconnue comme l'un des objets les plus sacrés de la Confédération des Pieds Noirs. La plupart des institutions sont réticentes à se départir de tels items, mais pas celle-ci. La direction du musée a appelé directement la communauté autochtone de l'Alberta pour demander simplement si quelqu'un pouvait passer chercher l'objet en question. Bon, l'interlocuteur au bout du fil aurait raconté que des employés auraient entendu des cris d'animaux dans le local où était entreposé le ballot. Donc, il y avait peut-être des esprits là, qui se manifestaient pour dire aux gens du musée de redonner à qui de droit. Mmh. C'est peut-être pour ça qu'ils ont décidé de s'en défaire. Les Premières Nations tentent de récupérer leurs objets sacrés depuis des décennies. Des masques, des pipes, des coiffes et des centaines d'autres objets ont quitté les collections de musées urbains pour retourner sur les terres où ils ont été fabriqués. Une libération qui permet à ces outils sacrés de remplir à nouveau la fonction pour laquelle ils ont été créés. Plusieurs objets ont repris leur rôle au cœur de la culture autochtone de leur nation. Ils ont définitivement ravivé de nombreuses personnes, affirme Jerry Potts, un aîné de la nation Picani, dans le sud de l'Alberta, qui a participé à plusieurs démarches de rapatriement d'objets sacrés. Il y a des objets redonnés par des universités et d'autres collections de partout qui sont de retour dans les communautés et qui ont retrouvé leur usage. Le mouvement de rapatriement a commencé dans les années 1970, initié par de jeunes autochtones qui souhaitaient renouer avec les cérémonies et les traditions de leur culture avant que les aînés ne disparaissent. Plusieurs de ces rituels nécessitaient la présence d'un objet unique et ces objets étaient tous dans des musées, des universités ou des collections privées. Récupérer ces pièces sacrées a été tout un défi, reconnaît Ryan Heavyhand. En 1994, il a écrit des lettres à 4000 musées pour leur demander s'ils possédaient des artefacts de la Confédération des Pieds Noirs. Près de 200 réponses positives lui ont été envoyées. Une petite parenthèse, c'est pas, il ne suffit pas de passer dans un musée pour constater la présence d'objets parce qu'il y a tellement un gros pourcentage des collections des musées qui sont archivées ou enfin qui ne sont pas, on peut pas les voir, donc on doit leur demander s'ils les possèdent. Mm-hmm. Alors, il a reçu 200 réponses positives. Il y avait plusieurs milliers d'items. Tous les plus grands musées du Canada ont de nombreux objets sacrés pieds noirs. Donc ça, c'est ça, seulement pour une seule communauté, là, la communauté mm-hmm. pieds noirs. On parle de milliers d'items. Après des décennies de démarches, ce sont maintenant les musées qui appellent les communautés autochtones pour retourner les pièces sacrées qu'ils détiennent. Sur la côte ouest, le cofondateur du comité de rapatriement des nations Skidegate et Haida, Andy Wilson, confie que la récupération d'artefacts a fait renaître les traditions. Les communautés ont profité du retour de plusieurs objets pour réapprendre à les fabriquer, hein, parce que cet art s'était pratiquement perdu dans certains cas.
Donc ça prend un modèle pour...
C'est ça, quand quand les aînés qui savaient qui possédaient la tradition sont partis, il n'y a plus personne pour nous enseigner comment les faire. Renouer avec ces anciennes pratiques a aussi permis d'ouvrir des canaux de communication entre les différentes générations à l'intérieur des familles. Hein. Là où les aînés étaient encore présents, bien, ça permet de réunir les jeunes avec les aînés pour transmettre les traditions et il y a un mot qui m'échappe, transmettre des façons de faire. Mm-hmm. Et Jerry Potts n'hésite pas à parler d'une véritable cure de jouvence pour la Confédération des Pieds Noirs. Alors, Alors, où est-ce que vous nous faites voyager de votre côté?
Je reviens chez nous un peu à un article que j'ai trouvé dans la presse plus de l'édition du 24 décembre et qui s'intitulait « Vedette éphémère ». Et ben, je me suis dit, c'est dommage que notre ami Serge ne soit pas là. Je suis sûr que ça lui dirait quelque chose plus qu'à vous, mais bon, je vais lire quand même. Donc, l'article s'intitule « Vedette éphémère ». Plusieurs vedettes instantanées sont revenues sur Terre après un moment de gloire plus ou moins éphémère. Soudain et sans prévenir, de façon volontaire ou non, elles sont retournées dans l'ombre. Si certaines ont conservé leur lustre, d'autres ont basculé de la chronique des célébrités à celle des pestiférés ou des disparus dans de tristes circonstances. Mm. Et voilà où je voulais en venir. J'ai hâte de voir si vous avez déjà entendu. Probablement que vous avez déjà entendu le prénom, mais pas pour cette personne-là. Le chanteur espagnol José Lito, de son vrai nom, José Jiménez Fernández, en fait partie. Est-ce que José Lito, je ne parle pas de José Lito Michaud.
Non, là, ouais, non, j'avoue que je n'ai jamais entendu parler d'un chanteur s'appelant
José Lito. Et voilà que je me trouve vieux ce matin. J'aurais aimé ça que ça.
Ah, parce que vous ben
oui.
Le connaissez.
Ben oui. Ouais, oh, on l'a échappé belle, ça.
Oui, j'essaie.
on a passé proche d'avoir un éternuement.
Non, non, c'est une quinte de toux que j'ai judicieusement et adroitement étouffée. Mais vous m'avez quand même stoulé.
J'ai quand même eu peur. Découvert par le ténor Luis Mariano, ça, ce nom-là, ça vous dit quelque chose?
Oui, ouais, oui, quand même, Luis Mariano, oui.
OK. Dans les années 50, il était appelé l'enfant à la voix d'or, le rossignol des montagnes.
Est-ce que c'est lui qui chantait « Por t'aimer, j'ai menti »
Non, je pense
non,
pas.
Non, c'était pas lui, ça.
Non, parce qu'il chantait en espagnol.
J'ai associé les deux dans ma... Oui, mais il avait un accent espagnol. Ou c'était peut-être italien, en fait.
Yeah. Il a chanté pour le pape Jean XXIII et le président américain Lyndon Johnson. Pardon. Il a été invité 3 fois au Ed Sullivan Show.
Quand même.
Et je suis pas sûr, je pense l'avoir vu au Ed Sullivan Show. Peut-être que je m'invente des souvenirs, là, mais... Il a fait
mais
le
là,
tour
c'est
du
ça,
monde.
C'est Luis Mariano ou José
non,
Lito?
Non, le José Lito.
OK, OK.
Ouais, ouais. Il a fait le tour du monde et a tourné 14 films, puis il est tombé dans l'oubli, littéralement. Et ça, par exemple, je me souviens d'avoir vu.
14 films, puis tomber dans l'oubli, c'est quand même...
Oui, ben, ouais, c'est vrai. C'est parce que Elvis en a fait à peu près ça, puis on se souvient de lui.
On se souvient de lui, mais il avait aussi chanté, puis il y avait une présence sur scène,
mais
peut-être.
Moi, je me souviens quand René Simard est arrivé, c'était un petit peu comme notre petit José Lito québécois.
Ouais.
Parce que c'est ça, José Lito, je me souviens pas quel âge il avait quand il a commencé sa carrière. Ils le disent pas ici, mais il avait genre 8
jeune.
Ou 9 ans.
Ah
là,
oui, OK, quand même,
bonhomme.
La même chose.
13 ans, en fait.
13 ans? Il 13 avait 13 ans qu'il a commencé?
Oui, découvert par Luis Mariano, il commence sa carrière à l'âge de 13 ans.
Ah, il avait l'air plus jeune que
il
ça.
Il était petit pour son âge.
Oui.
Ça, oui, je l'ai en photo, puis okay. il a pas l'air de 13
très
ans.
Jeune, non, c'est ça. Moi, me semble à 13 ans, je fumais avec cachet. Non, ma mère, elle sait pas, excusez. Bon, on revient à José Lito. Il fait quand même 14 films, mais moi, je me souviens quand j'étais jeune, on allait voir au cinéma.
Là, quand vous dites que vous étiez jeune, vous voulez dire 13 ans?
J'étais un peu
ou...
plus jeune que lui, quand même. On allait voir soit un film de Tintin ou José Lito, genre l'orphelin à la voix d'or, l'enfant à la voix d'or, le rossignol, c'était tous des titres comme ça. Mm-hmm. Mais c'était notre idole, parce que, écoute, un petit jeune comme ça, il avait vraiment une voix superbe. Par la suite, ses retours sont demeurés de faibles scintillements comparativement au feu d'artifice de sa carrière adolescente. Mais après un dernier film, Prisonnier dans la ville en 1969, sa carrière se délite. L'enfant devenu adulte disparaît des écrans radars. Des informations très fragmentaires indiquent une parenthèse criminelle dont il aurait été blanchi en Angola en 1990-1991. Il tente un retour dans l'indifférence médiatique au Québec en 1996-1997. On le voit dans quelques films espagnols dans les années 2000. Malheureux, José Lito, pas selon une entrevue accordée en 2014, donc bonne nouvelle,
il est toujours vivant. Oui.
Entrevue accordée en 2014 au journal France Dimanche. Vivant à Utiel, près de Valence, l'homme de 74 ans, donc quand je vous disais qu'il était plus vieux que moi quand même, disait alors avoir mis fin à sa carrière, lassé de ne pas avoir une vie normale. De toute façon, ses gains l'ont rendu indépendant de fortune. Je coule une retraite heureuse et des jours de bonheur avec ma femme. En bon andalou, je dors le jour et je vis la nuit. J'aime la vie nocturne.
À 74 ans
encore!
Ouais,
imagine.
Wow.
C'est quand même. Hein. Mm. D'autres personnalités retournées dans l'ombre, juste une petite parenthèse aussi, Alice Robbie, on se souvient d'Alice Robbie.
Oui.
Alice Robbie, qui a vécu de 1923 à 2011, est revenue avec un certain succès sur la scène dans les années 70. Mais jamais elle ne renouera avec le succès des années 30 et 40, arrêté net par la maladie mentale en 1948. De nombreux autres chanteurs et chanteuses sont aussi tombés dans l'oubli. Probablement que vous les avez même jamais connus.
Mais Alice Robbie, Margot si Lefebvre. On fait des parenthèses, oui. Alice Robbie, on la connaît parce qu'il y a eu un film sur sa vie dernièrement, mais c'est pas ça qu'on s'en souviendra encore, en tout cas ma génération. Là.
Non, ou on s'en souviendra peut-être pas pour les bonnes raisons. Mais effectivement,
peut-être,
elle a eu une carrière.
Mais là, maintenant, quand on passe à Alice Robbie, on pense à une grande chanteuse.
Oui. Et c'est ça, des noms, ça m'a fait rire, parce que quand j'étais jeune, Margot Lefebvre,
non, ça me dit rien.
À l'époque de jeunesse d'aujourd'hui, Rosita Salvador, Sœur Sourire.
Ah ben, je connais le nom, mais ça, juste parce que c'est une réplique dans Le Père Noël est une ordure, puis on a dû remplacer le nom par quelque chose d'autre, parce que personne ne connaissait ça.
Sœur Sourire, elle chantait la chanson Dominique. Je ne chanterai pas ici, là. Et je pense qu'elle, ça avait très mal fini son affaire, parce qu'il y a eu un film sur sa vie. Qui a passé quand même il y a quelques années, fait pas si longtemps.
Ça l'a pas remis autant sur la map que.
Non, pas tant que ça. Puis je pense que ça a mal fini son histoire parce qu'elle s'est suicidée.
Oh, mais est-ce que Sœur Sourire, c'était une sœur religieuse?
Oui, oui, c'était une vraie religieuse.
Ah, oh, c'est triste, une religieuse qui se suicide.
Oui, mais je pense qu'elle était peut-être pas nécessairement à sa place dans la communauté.
Oui, oui, je
effectivement,
comprends.
C'est pas. Alors voilà pour les vedettes éphémères.
Merci, Daniel.
Alors, ça vous rappelle des souvenirs, Daniel?
Pas vraiment. Finalement, mes souvenirs, ça n'était pas
comme... Vous
vous
rappelez plus des films que des chansons, finalement.
C'était la pièce « Quando te perdio el re moro ».
C'était probablement pas dans un des films.
Au moins quelques secondes de plus. Alors, je vais partager avec vous un autre article que j'ai pris sur... En fait, c'est celui-là est tiré de « Espace autochtone », mais c'est un texte de Marie-Laure Josselin. « Métier conseillère parajudiciaire autochtone ». C'était publié le 19 décembre 2017. Se présenter en cours lorsqu'on est autochtone veut dire faire face à des barrières linguistiques, culturelles ou encore sociales. Une situation qui ne favorise ni l'accusé ni les victimes et encore moins la justice. Les conseillers parajudiciaires autochtones sont là justement pour permettre une justice plus équitable et mieux adaptée à la réalité des autochtones, sans passe-droit. Rencontre avec Sonia Gagné. Dans une salle d'audience du Palais de justice de Montréal, Sonia Gagné se glisse entre deux chaises. Sonia Gagné, là, ça s'écrit S-O-N-Y-A G-A-G-N-I-E-R.
Oui.
Alors, au cas où vous voudriez chercher plus d'informations sur cette madame. Cette dame, je sais pas qu'est-ce qui... Alors, derrière elle, une mère et son fils attendent. Le jeune homme, un autochtone, doit passer en cours. Ils se sont levés tôt pour être les premiers et depuis attendent sans trop savoir ce qui se passe. Leur avocat n'est pas là. Vous pouvez sortir de la salle d'audience. Lorsque votre avocat sera prêt, on vous appellera. Soyez vigilant et écoutez si vous entendez votre nom, lance Sonia Gagné à ses clients. Soupir de soulagement de la mère, qui répond « Merci, car on ne savait pas quoi faire et on se questionnait. » Sonia Gagné, ancienne chef de Kanasetake, est conseillère parajudiciaire depuis un an. Comme elle, près de 200 personnes offrent des services aux Autochtones impliqués dans le système judiciaire criminel et pénal. Selon les derniers chiffres, près de 70 000 Autochtones font appel à ces conseillers judiciaires chaque année dans plus de 450 collectivités. Un service nécessaire puisque près de la totalité des membres du personnel judiciaire a estimé, selon le rapport, que les personnes autochtones qui comparaissent en cours continuent d'avoir besoin de tels conseillers. Des fois, ils ne parlent ni anglais ni français, mais inuktitut, crient. une langue autochtone, donc c'est difficile pour eux de comprendre ce qui se passe, raconte Sonia Gagné. Ses clients, comme elle les appelle, ne comprennent pas non plus le système judiciaire. Les avocats sont toujours pressés, donc c'est dur pour la personne de suivre. Des fois, elle va plaider coupable alors qu'elle n'était pas supposée. On est là pour éviter cela, pour expliquer comme il faut, prendre le temps et parler aussi avec l'avocat. Son jeune client l'affirme, la présence de Sonia Gagné l'aide beaucoup car le système judiciaire pour lui est un grand inconnu. Je me sens plus à l'aise avec elle car elle est de ma communauté, elle comprend mieux. Ça aide d'avoir sa présence dans toutes les circonstances. C'est elle qui fait appel à la. C'est sa mère qui fait appel à la conseillère pour avoir un soutien bien avant qu'elle n'ait trouvé un avocat. Le programme d'assistance parajudiciaire aux Autochtones, offert depuis 1978, essentiellement par des organismes de services, est financé par le fédéral et le provincial. Au Québec, l'organisme sans but lucratif est formé de 10 nations et associations provinciales qui siègent à son conseil d'administration. Il est indispensable de fournir des services de conseiller parajudiciaire aux personnes autochtones qui continuent d'être confrontées à d'importantes difficultés qui peuvent avoir une incidence sur leur accès à un traitement juste, équitable et culturellement adapté dans le système de justice. C'est un extrait du rapport d'évaluation du programme d'assistance parajudiciaire aux Autochtones de 2013. Car la proportion de détenus autochtones dans les centres de détention ne cesse de croître. Dans les pénitenciers canadiens, il y a maintenant 25,4% des détenus qui sont autochtones, alors qu'ils représentent moins de 5% de la population totale du pays. C'est un peu, on peut presque faire le parallèle avec les Afro-Américains aux États-Unis. Quoique les pourcentages sont différents, là, mais il y a quand même une grosse différence entre la représentation dans la population et dans le système carcéral. Sonia Gagné se voit comme un pont entre les Autochtones aux prises avec la justice et la justice elle-même. Au-delà de connaître le système judiciaire, sa connaissance des communautés autochtones et de leur culture prime dans le rapport de confiance qu'établit Sonia avec ses clients. « Il y a une façon de leur parler. Je sais comment ça marche et c'est plus facile pour moi d'expliquer avec des termes qu'ils vont comprendre. Des fois, c'est aussi une manière de le dire. Quand on parle ensemble, on utilise plus d'humour. »
Autrement dit, c'est un rôle de conseiller-interprète, mais plus qu'interprète. Il faut comprendre la culture.
C'est ça, il faut comprendre les deux côtés, voilà. Exactement, donc d'où l'idée de pont. À la cour municipale, un peu plus tôt, Sonia Gagné interpelle Maître Alexandre Ménard, avocat de la Défense. Ils attendent un client qui ne se présentera pas. De retour au bureau, elle enverra une intervenante avec qui elle travaille aux trousses du client récalcitrant, pour le faire venir avec elle et lui expliquer l'obligation de se présenter devant le juge. Depuis un an, Maître Ménard travaille avec la conseillère et affirme avoir constaté une énorme différence. Elle est capable de les amener à la cour, les amener à faire des thérapies. Souvent, les clients sont réservés et comme elle passe tellement de temps avec elle, elle les comprend, les touche et les amène à parler avec moi. L'avocat explique avoir déjà eu des clients qui ne comprenaient pas ce que voulait dire être coupable. Il ne faut rien prendre pour acquis. Toujours leur expliquer toutes les procédures. Sonia m'amène beaucoup de solutions en proposant, par exemple, de suivre l'agenda d'un client pour éviter qu'il ne soit incarcéré pour rien. Comme Sonia, les conseillers parajudiciaires peuvent aussi faire la promotion d'initiatives de justice communautaire. Par conséquent, Sonia Gagné discute avec l'avocat ou parfois même directement avec le juge pour trouver des alternatives, pour expliquer que certaines conditions sont quasiment impossibles à respecter. Elle prend l'exemple de l'alcool. Dire aux clients de ne pas boire, c'est impossible, car ils sont alcooliques. C'est sûr qu'ils vont prendre un coup, donc on essaie de travailler avec les avocats et la cour pour expliquer ce qui se passe dans la vie de la personne et voir ce qu'on peut faire pour améliorer la situation et éviter de donner une condition qui n'est pas réaliste. Selon le ministère canadien de la Justice, les études révèlent que des facteurs socio-économiques, comme la consommation abusive d'alcool et de drogue, les troubles de santé mentale, le manque d'information et de compréhension des clients et l'insuffisance des ressources communautaires et de justice pénale contribuent de façon importante au récidivisme dans les infractions relativement mineures quant à l'administration de la justice. Autre travail de Sonia Gagné, toujours dans le but de réduire le problème de la surreprésentation autochtone en milieu carcéral, produire ce qu'on appelle des rapports GLADU, afin que la Cour tienne compte du racisme et de l'histoire particulière des Autochtones. La Cour suprême, dans l'arrêt GLADU, avait reconnu que l'histoire du colonialisme, les pensionnats autochtones ou encore les circonstances socio-économiques qui en résultent, contribuent au plus grand nombre d'incarcérations chez les Autochtones. Dans la détermination de la peine, le juge tiendra compte de cette situation grâce au rapport produit par Sonia. Il y a beaucoup de juges qui vont considérer ce qu'on va suggérer pour le client, Mais, du même souffle, elle précise que certains avocats ne veulent pas vraiment prendre le temps de comprendre ce que font les conseillers parajudiciaires. On travaille fort, mais ça va être une personne à la fois. On ne peut pas les laisser comme ça et les faire passer dans la machine du système de justice sans comprendre leurs besoins et leurs réalités, sans être sensible à leur culture. Au Palais de justice de Montréal, la conseillère et ses clients discutent en attendant de passer devant le juge. Sonia Gagné raconte quelques blagues pour détendre l'atmosphère. Combien de temps ça va prendre? Quelques heures, une journée, s'impatiente Sonia qui réfléchit à tous les autres dossiers en cours à traiter. La conseillère ne manque pas de travail. Pourtant, sa cliente, la mère du jeune homme, déplore qu'on ne fasse pas plus de publicité sur ce service gratuit, qu'elle qualifie d'essentiel. Et c'est déjà la fin d'une autre émission, Les Voix de service. Merci beaucoup, Daniel Lachance. Oui. Merci à Jean-Sébastien La Liberté. Excusez-moi, à la mise en onde. Et bien, si vous restez avec nous, vous aurez la chance d'entendre la douce et profonde voix de François Brodeur, qui est aujourd'hui aux commandes de l'émission Le Quotidien des quotidiens. Bonne année tout le monde!